VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Dakar, 18h à Kinshasa, bienvenue à notre journal présidentiel américain 2016. Guerre civile dans le camp républicain ce mardi. Le candidat du parti Donald Trump reprochant au leadership républicain de torpiller sa campagne. Le milliardaire républicain a accusé le numéro 1 républicain au Congrès, Paul Ryan, d'avoir manqué de loyauté quand ce dernier a annoncé lundi qu'il ne le défendrait plus de peur de perdre non seulement la course à la Maison-Blanche, mais aussi le contrôle du Parlement. La campagne de Donald Trump est en pleine tourmente depuis la publication vendredi dernier d'une vidéo de 2005 où il tient des propos dégradants à l'égard des femmes, ce qui lui a valu de perdre le soutien de plusieurs ténors du Parti républicain ainsi que des points dans un sondage. Le milliardaire a certes tenté, lors de son deuxième débat télévisé dimanche face à Hillary Clinton, de remonter la pente. Après deux semaines de controverses continues sur ses impôts et son comportement machiste, mais la victoire à la présidentielle s'annonce désormais difficile, a reconnu Donald Trump lui-même ce mardi en accusant son propre camp. C'est dur de bien faire quand Paul Ryan et les autres vous apportent zéro soutien, a-t-il souligné, en notant que les démocrates, dont la candidate à la présidente est Hillary Clinton, étaient beaucoup plus loyaux entre eux que les républicains. Afrique maintenant, en RDC, le seigneur de guerre Gédéon Kyungu Mutanga a fait sa reddition ce mardi 11 octobre à Lubumbashi avec une centaine de miliciens Maïmaï Bakata Katanga. Les miliciens ont scellé la paix lors d'une cérémonie en présence des autorités dans la grande métropole du sud-est de la RDC. Et puis la Cour pénale internationale tient aujourd'hui à La Haye ses premières audiences publiques sur l'éventuelle indemnisation pour les victimes de crimes de guerre en RDC. Les audiences qui se poursuivront jeudi doivent permettre aux juges de la Chambre de première instance de la CPI de déterminer combien peuvent recevoir les anciens enfants soldats recrutés par le chef de guerre Thomas Lubanga dans l'est de la RDC en 2002 et 2003. 1 million d'euros a été alloué au dossier par le Fonds au profit des victimes, un organe indépendant mis en place par le traité fondateur de la CPI, le statut de Rome. Au Congo-Brazzaville, le procureur de la République a accusé de terrorisme de la région méridionale du Poule, Frédéric Bitsamo, alias pasteur Tata Ntoumi. Brazzaville traque le pasteur Ntoumi et ses hommes dans ce département du sud de la capitale, tandis que ces derniers affirment ne faire que se défendre avec des fusils de chasse. Franck Eloge Mpassi, porte-parole du pasteur Ntoumi, affirme que c'est plutôt l'armée qui terrorise les populations avec des bombardements par hélicoptère. On l'écoute.
On le dit qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Entre le bombardement d'un hélicoptère et l'utilisation d'un calibre 12, qu'est-ce qui terrorise mieux la population? Il faut qu'on regarde ces rapports de force. Ce que nous demandons, nous sollicitons que les deux camps dialoguent. C'est le dialogue qui va régler le problème.
La société civile congolaise, pour sa part, appelle aussi à un dialogue entre les deux parties. On écoute Luamba Moke, président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral.
Depuis 1993, le Poule est toujours dans des difficultés. Et lorsqu'il y a un événement malheureux dans notre pays, le Poule est toujours à la tête, le Poule est toujours concerné. Donc c'est le chef de l'État doit se lever pour prendre des décisions et des décisions courageuses pour effectivement, et ces décisions pour nous c'est le dialogue.
Luamba Moke, président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral au Congo-Brazzaville. Burundi, le gouvernement burundais a décidé aujourd'hui de suspendre jusqu'à nouvel ordre toute forme de collaboration avec le bureau du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme à Bujumbura, bureau qui l'accuse de complicité dans l'élaboration d'un rapport accablant pour le pouvoir. Bujumbura ajoute avoir demandé au bureau onusien de désigner une équipe pour renégocier l'accord liant les deux parties, notamment le mandat, la durée et la taille de la structure au Burundi. Lundi, le gouvernement burundais avait déjà déclaré persona non grata trois experts des droits de l'homme de l'ONU qui, dans leur rapport publié le 20 septembre, avaient accusé Bujumbura de violations graves des droits de l'homme et mis en garde contre de possibles crimes contre l'humanité. Réaction de désapprobation hier à l'ONU, il est crucial que le Burundi et tout autre pays coopèrent totalement avec le mécanisme de protection des droits de l'homme de l'ONU, y compris en travaillant avec ceux qui le représentent, a souligné le porte-parole onusien Stéphane Dujarric hier à New York.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale ivoirienne a adopté ce mardi le projet de nouvelle constitution voulu par le président Alassane Ouattara. La quasi-totalité des votants se prononce en faveur du texte qui sera soumis à un référendum fin octobre. Avec 239 voix pour sur un total de 249 votants, le vote a sans surprise largement dépassé les deux tiers des voix, 167 nécessaires à l'adoption de l'avant-projet de constitution. Dans une assemblée presque monocolore, l'opposition avait boycotté les législatives de 2011 et 90% des 250 députés sont dans la mouvance présidentielle. Mais le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a rappelé aujourd'hui que seul le peuple souverain, en dernier ressort, décidera du sort de cette constitution lors du référendum qui devrait avoir lieu le 30 octobre, date encore non officielle. 23 partis d'opposition dans le Front populaire ivoirien FPI, fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo, ont dénoncé le projet la semaine dernière. Croyant que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets, l'opposition a appelé les Ivoiriens à faire échec à cette initiative antidémocratique et qui menace, selon eux, gravement la paix et la stabilité du pays. En Guinée, les forces politiques sont convenues d'indemniser les victimes des violences électorales de 2013 au terme d'un dialogue national qui s'est achevé dans la nuit de lundi à mardi, date anniversaire de la réélection du président Alpha Condé. Lancé le 22 septembre, trois semaines après une rencontre de M. Condé et le chef de l'opposition, l'ex-premier ministre Seloud Alain Diallo, ce dialogue a débouché sur une série d'accords, notamment sur l'organisation des élections locales en février 2017, la réforme de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, et la création d'une haute cour de justice. Notre dialogue est théoriquement terminé, pratiquement il le sera lorsque tous les points de l'accord auront été exécutés, a déclaré lundi soir le ministre de l'administration du territoire, Bourima Condé, qui présidait ces concertations entre forces politiques, sociétés civiles et partenaires internationaux. L'ultime décision a porté sur la création de deux fonds d'indemnisation des victimes des nombreuses violences des élections législatives de 2013 qui avaient été entachées par des accusations de fraude massive. Au Nigeria, le barreau nigérian confirme la libération des juges arrêtés ce week-end dans le cadre d'une enquête sur la corruption. Les précisions de Nani Talani.
Le président du barreau nigérian, Aboubakar Mahmoud, a fait savoir que les juges interpellés ont été libérés sous caution dimanche. Toutefois, il n'a pas précisé leur nombre. Une source au sein de l'Agence nigériane de sécurité nationale a indiqué que 7 magistrats sont concernés et qu'ils se sont présentés au siège de l'agence lundi. Il dit ignorer la date à laquelle ils seront inculpés, ajoutant que leurs dossiers ont été confiés au procureur général. Les juges mis en cause siègent à la Cour suprême nigériane, à la Cour d'appel et à la Haute Cour. L'Agence de sécurité nationale, qui les a interpellés ce week-end, dit avoir saisi 800 000 dollars pendant les perquisitions. La décision d'arrêter les juges a provoqué un tollé dans le pays. Les critiques accusent le président Muhammadu Buhari de mener une chasse aux sorcières sous couvert de la lutte contre la corruption, ce que réfute le porte-parole de la présidence.
Éthiopie. Le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn a affirmé aujourd'hui vouloir réformer le système électoral pour que l'opposition soit mieux représentée en réponse au mouvement de contestation qui secoue son pays. Une annonce qui intervient lors d'une visite de la chancelière allemande Angela Merkel. Jacques Aristide.
Madame Merkel, qui termine une tournée africaine de 3 jours, a décliné une invitation à s'exprimer devant le Parlement éthiopien pour, d'après l'AFP, ne pas donner l'impression de soutenir une chambre monolithique. Mais elle était aux côtés du chef du gouvernement éthiopien lors d'une conférence de presse conjointe à Addis Abeba. Pour la chancelière allemande, une démocratie dynamique a besoin d'une opposition et de médias libres. Les gens veulent exprimer leur point de vue, ils veulent avoir leur mot à dire, a déclaré Madame Merkel. Un appel qui semble avoir été entendu par le Premier ministre Desalegn, qui a assuré que son gouvernement réformerait le système électoral pour que les voix de ceux qui ne sont pas représentés puissent aussi être entendues au Parlement. L'Éthiopie est en proie à un mouvement de contestation antigouvernementale sans précédent depuis 25 ans et selon des ONG, la répression a fait plus de 500 morts.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.